7-9.
Soyez les bienvenus dans le 7-9. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 9 décembre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la proposition fera-t-elle pchit ? Anne Hidalgo se résout à appeler à une primaire à gauche. Ses concurrents n'en veulent pas et on verra pourquoi. On en parlera à 7h50 avec votre invité Yaël.
La gauche va-t-elle, peut-elle retourner à l'école primaire comme en 2011 et 2016 ? C'est Anne Hidalgo qui veut renverser la table, vous l'avez dit. Aveu de faiblesse avant extinction ou électrochoc de dernière chance, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sera notre invité à 7h50.
A tout à l'heure, Yaël. Et les autres titres, Anaïs ?
Dernier tour de piste avant fermeture des discothèques et des bars et restos dansants. Le variant Omicron plane sur les fêtes de fin d'année. Le sommet sur la démocratie de Joe Biden débute aujourd'hui. Et Lille, qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football pour la deuxième fois de son histoire.
À 8h20, dans le grand entretien, on parlera de la mémoire de la guerre d'Algérie. Un groupe de jeunes gens âgés de 18 à 35 ans, ayant tous une relation familiale à cette histoire, ont planché donc sur le sujet. Ils nous diront ce qu'ils en ont retenu. L'historien Benjamin Stora sera également avec nous. Et j'attends vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. Une gauche éclatée façon puzzle, 7 candidats pour moins de 25% des voix, peut-elle sortir la tête de l'eau à 4 mois de la présidentielle ? Arnaud Montebourg, le premier hier, a lancé un appel à l'unité. Et voici que la candidate du Parti Socialiste, engluée dans les sondages, qui défendait encore hier matin son programme et disait qu'une union à gauche artificielle ne fonctionnerait pas, eh bien elle décide d'interrompre son déplacement en Charente pour prendre la parole. JT de TF1 hier soir, Anne Hidalgo.
Il faut organiser une primaire de cette gauche, arbitrée par nos concitoyens. Je sais qu'ils seront très nombreux. Je sais que si nous ne faisons pas ce rassemblement, il n'y aura pas de possibilité pour cette gauche de continuer à exister dans notre pays. Les Françaises et les Français qui participeront arbitreront, mais redonnons cet espoir.
Anne Hidalgo qui précise aussi qu'elle maintiendra sa candidature si cet appel n'est pas entendu, ce qui en effet est loin de susciter l'enthousiasme des autres membres de la famille. Pour les écologistes, les insoumis, les communistes, c'est non. Tous, Laurence Perron ne voit dans cet appel qu'une ultime initiative d'un PS moribond et d'une candidate à la peine.
Mais pour qui se prend Madame Hidalgo, ironise un lieutenant de Jean-Luc Mélenchon. Quand on est à 4% dans les sondages, on devrait au moins faire preuve d'un peu d'humilité. C'est un petit peu comme si votre voisin locataire d'une chambre de bonne dans la copropriété vous imposait in extremis un ravalement façade, toiture et cour intérieure. Les écologistes voient dans la proposition une sorte de chant du cygne. Le PS et sa candidate à bout de souffle tentent un dernier coup de poker, faire tapis avant de s'effacer en accusant ses adversaires de ne pas avoir été faire plaît. Les écologistes sont aujourd'hui intraitables avec les socialistes. Il n'y aura d'accord électoral pour les législatives que si Anne Hidalgo s'efface derrière Yannick Jadot. Et aucun coup de menton médiatique ne viendra entamer la conviction partagée avec les insoumis et reprise par ce cadre communiste assassin. Le Parti Socialiste est mort politiquement. On assiste là, avec les appels à l'unité d'Arnaud Montebourg ou d'Anne Hidalgo, au soubresaut pathétique de vieille gloire définitivement ternie.
Seul à se réjouir le mouvement citoyen de la primaire populaire qui pousse pour faire émerger une candidature unique. Je vous rappelle que le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, sera l'invité d'Inter à 7h50.
Il est 7h04, on remet le masque à la récré aux primaires.
Entrée en vigueur aujourd'hui du niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles. Plus de brassage de classe, désinfection des cantines et sport, si possible à l'extérieur. Les enfants que le gouvernement souhaite voir vaccinés dès le 20 décembre. Mais sur cette question, encore au moins deux avis doivent être rendus. On connaît déjà celui du Conseil d'orientation vaccinale. Hélène Chevalier, c'est oui pour la vaccination, mais à certaines conditions.
Dans cet avis, le Conseil n'a pas de doute sur les bénéfices que pourrait apporter cette vaccination des 5-11 ans. Tout d'abord, l'essai clinique a démontré une efficacité de 90%. Et puis l'épidémie flambe actuellement chez les élèves de primaire. Leur vaccination pourrait permettre de ralentir le nombre d'infections, de transmissions dans les écoles et au sein des foyers. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez les ados vaccinés à près de 80%. Elle permettrait, ajoute l'avis, de diminuer les formes graves, certes moins courantes que chez les adultes, mais en augmentation depuis le début de cette cinquième vague. C'est en revanche sur les risques que s'interroge le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. L'effectif de l'étude, 2200 enfants, lui apparaît trop réduit pour être en mesure de détecter des effets indésirables sévères comme des myocardites. Selon l'avis, la généralisation de la vaccination des 5-11 ans ne peut avoir lieu qu'après analyse des données en vie réelle et plus particulièrement celle des États-Unis où plus de 5 millions d'enfants ont déjà reçu au moins une dose. Mais ces données sont attendues à la fin du mois alors que le gouvernement français envisage les premières piqûres avant Noël.
La vaccination des adultes aurait pu éviter 840 décès aux Antilles. Enquête d'un collectif de scientifiques et de médecins qui ont suivi deux groupes, des personnes vaccinées et des non vaccinées. Les résultats sont conformes à toutes les études. Avec le vaccin, le risque de décès est réduit de plus de 93%. Plus de 500 décès en Martinique et 300 en Guadeloupe auraient donc ainsi pu être évités. Face à ce risque de transmission accélérée dû au variant Omicron, les discothèques ferment demain pour 4 semaines. Dernier jour donc pour profiter de la boule à facettes et même pour danser tout court. Le décret publié hier précise que les bars et restaurants dansants doivent supprimer leurs pistes. Coup dur à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Reportage de Delphine Evenou à la Favela Chic, un bar-club de Paris.
Une fois dépassées les tables garnies de plats brésiliens, une vaste piste de danse face à un grand bar. Dès demain, le restaurant prendra toute la place à regret.
La favela sans la danse, c'est comme marcher sur un pied, quoi.
Anthony Doumbia, directeur artistique de l'établissement.
On peut même quasiment chiffrer aux alentours de moins 50% sur notre chiffre d'affaires, forcément, puisqu'on va être obligé de fermer beaucoup plus tôt. On va avoir beaucoup moins de gens, parce que forcément, si on ne fait pas danser, il y aura beaucoup moins de gens qui vont se présenter.
Grimace aussi pour Oli, DJ. Il démarre son set, le dernier de l'année ici.
J'ai pas eu le temps de me retourner, je sais pas du tout ce qui va se passer maintenant, c'est triste à dire mais on a un peu rodé.
Et pour les amateurs de soirées dansantes plus intimistes qu'en discothèque, c'est la douche froide.
Bah on vient de la prendre. Du coup on fait que travailler. Voilà, on est parti pour ça. Là on est en train de détruire les biens de tout le monde en fait.
Moi j'avais projet de partir en station de ski où justement il y allait avoir des bars à ambiance etc. Du coup ça va être fermé même si les bars vont rester ouverts, mais ça sera pas la même chose.
Et la décision est difficile à digérer.
Je vois pas en quoi est-ce que danser et s'amuser avec des copains va être plus problématique que d'aller au marché de Noël de Strasbourg. Il y a 1500 personnes sur 1 km carré à Strasbourg. Par contre, dans un bar dansant, il y a peut-être 10 personnes sur 1 mètre carré et voilà, on les ferme.
Un dernier tour de piste ce soir, puis rendez-vous le 7 janvier, sauf si le Covid en décide autrement.
Le reportage de Delphine Evenou. Les admissions en soins critiques sont en forte hausse et dépassent le pic de la quatrième vague. Le plan blanc est réactivé dans plusieurs régions, dont l'Île-de-France. On passe au plan B en Angleterre aussi. Le cas du Omicron double tous les 2 à 3 jours dans le pays, dit Boris Johnson. Retour donc du télétravail lundi. Et nouveauté en Angleterre, le pass sanitaire va être demandé pour certains lieux.
Il est 7h08, le combat entre la démocratie et les autocraties, Anaïs, au cœur de la politique étrangère de Joe Biden.
Le président américain réunit 110 pays sur les 197 du monde pour un sommet virtuel de 2 jours sur la démocratie. C'était une promesse de campagne, mais la liste des invités fait réagir. Ni la Chine, ni la Russie ne sont conviés et dénoncent une mentalité de guerre froide. Notre correspondant à Washington, Sébastien Paour, a rencontré la sous-secrétaire d'État américaine aux droits de l'homme et à la démocratie qui s'en explique.
Ouzra Zeya ne le dit pas comme ça, mais Moscou et Pékin ne sont pas tout à fait raccord avec les 3 objectifs du sommet, contrer l'autoritarisme, combattre la corruption et promouvoir le respect des droits de l'homme.
Vous verrez toutes les régions du monde représentées, des démocraties bien établies, comme la France, mais aussi des pays qui sont encore sur le chemin de transition démocratique.
Ça veut dire que les États-Unis considèrent que la Russie, la Chine ne sont pas des démocraties établies ?
Non, notre position n'est pas d'être l'arbitre de qui est une démocratie et qui n'est pas.
Taïwan est invité au sommet alors que Washington a choisi le boycott diplomatique des Jeux de Pékin. Autre démocratie à surveiller selon elle, après l'invasion du Capitole, celle des États-Unis.
Moi je trouve que l'état de la démocratie aux États-Unis c'est encore fort, mais on reconnaît après les événements du 6 janvier qu'on doit travailler toujours pour protéger l'idée essentielle de la démocratie qui est le transfert pacifique de pouvoir.
Transfert de pouvoir toujours contesté. D'après les sondages, 1 Américain sur 3 estime que Joe Biden n'est pas le président légitime. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et Pierre Aski reviendra dans Géopolitique après le journal de 8h. La Commission européenne présente aujourd'hui une série de mesures pour renforcer les droits des travailleurs des plateformes type Uber ou Deliveroo, actuellement tous traités comme indépendants et non pas salariés. À Paris, les syndicats de fonctionnaires reçus aujourd'hui au ministère pour discuter salaire et demander un dégel du point d'indice, précision dans le journal de 7h30. Et puis trafic perturbé aujourd'hui en région parisienne sur le RER B. Là aussi les salaires, grève des conducteurs de la SNCF qui dénoncent également la dégradation de leurs conditions de travail. Le réseau social Twitter met-il les moyens pour lutter contre la haine en ligne ? Des associations contre le racisme lui demandent plus de transparence. L'été dernier, la justice avait contraint Twitter à livrer certaines données, mais la société traîne des pieds. Une nouvelle audience est prévue cet après-midi à Paris. L'Aurélie Carive.
Combien de messages haineux sont signalés chaque année par des utilisateurs français de Twitter? Surtout, combien de personnes sont chargées d'examiner ces signalements? Où sont-elles basées? Quelle langue parle-t-elle? Autant de questions auxquelles le réseau social devait apporter des réponses. Ordre du tribunal de Paris en juillet dernier. Ça n'a pas été le cas. Stéphane Lilti représente l'Union des étudiants juifs de France. Pour l'heure, l'avocat n'a eu à se mettre sous la dent que quelques informations lacunaires au gré des documents fournis par la défense de Twitter en vue de l'audience d'aujourd'hui.
Nous avons eu la stupéfaction d'apprendre que Twitter emploierait, selon elle, 5000 personnes dans le monde. Sur ces 5000 personnes, 1867 précisément, à ma connaissance ce chiffre est inédit, se consacreraient exclusivement à la modération des contenus.
Un nombre dérisoire, dit-il, au regard des 504 millions de tweets échangés chaque jour. La plateforme, elle, considère que la question des moyens est hors sujet, qu'elle ne doit être jugée que sur sa rapidité à réagir en cas de signalement, mais ne fournit aucun chiffre en la matière. Fait assez rare dans ce type de procédure civile, le ministère public a pris position. Au nom de la société dans son ensemble, il demande à la Cour d'appel de confirmer le jugement rendu en première instance.
La sanction est tombée hier soir. L'Olympique lyonnais se voit retirer un point après les incidents du match de foot contre Marseille. La rencontre sera rejouée à huis clos. Les footballeurs lillois, eux, sont aux anges, qualifiés pour la deuxième fois de leur histoire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un nul leur suffisait, mais c'est avec la manière 3-1 contre Wolfsburg que le LOSC se qualifie Guillaume Matin.
Il y a 15 ans, Lille avait terminé la phase de groupe à la deuxième place derrière le Milan AC. Cette fois-ci, Lille fait encore mieux avec la première place du groupe G et 3 victoires dans les 3 derniers matchs, dont 2 à l'extérieur. L'un des buteurs de la soirée à Wolfsburg, Jonathan David.
Des fois, c'est dur à réaliser, mais on savait que avant ce match, si on passait, on rentrait dans l'histoire et c'est ça qu'on essaie toujours de faire. On essaie toujours de monter des étapes. J'avais plusieurs chances aujourd'hui. Peut-être 2, je peux mettre, je crois. Mais j'en ai mis 1. Après, on continue à travailler.
Il n'a pas marqué de but, mais son talent a marqué les esprits des recruteurs italiens, notamment meilleur joueur du match, Jonathan Ikoné.
On a su tout donner sur le terrain et on s'est mis au diapason de cette compétition. On s'est donné les moyens et c'est la force collective de l'équipe.
L'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec avait annoncé à ses joueurs qu'ils seraient en huitième de finale il y a plusieurs mois.
C'est une fierté déjà de bien représenter le foot français, d'avoir fait honneur au titre de champion et puis de faire honneur à notre club, à nos supporters pour s'offrir des choses magnifiques en début d'année 2022.
Et avec ce but encaissé à 2 minutes de la fin du match, Lille manque le titre honorifique de meilleure défense de la Ligue des Champions. Wolfsburg, Guillaume Batin, France Inter.
Et puis le séisme footballistique d'hier soir, c'est l'élimination du Barça en phase de groupe. Une première depuis 20 ans, le FC Barcelone balayé par Munich 3-0.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le zoom sur les concours de beauté à l'heure de MeToo.